Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs, auditrices de Radio Okapi. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Au sommaire de cette conférence de presse, comme d'habitude, nous aurons les activités des composantes de la MONUSCO, puis ce sera les activités de l'équipe pays. Enfin, la situation militaire. Notre invité sera aujourd'hui Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Donc tout de suite, activité des composantes de la MONUSCO, une délégation du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie séjourne depuis hier à Goma. La délégation conduite par le directeur adjoint du département Afrique du ministère des Affaires étrangères a rencontré hier à son arrivée le chef du bureau de la MONUSCO à Goma, Ray Virgilio Torres, avant de se rendre au gouvernorat où elle a échangé avec le vice-gouverneur du Nord Kivu. Plus tard dans la journée, la délégation s'est également entretenue avec le général Samantra, commandant de la brigade du Nord Kivu. La délégation se rendra demain dans la matinée à Bukavu avant de retourner dans l'après-midi à Goma. Il est prévu une visite au centre minier de Louéché dans le Massissi avant celle au centre de formation de la PNC à Mugunga. Le comité d'appui technique au mécanisme régional de suivi se réunira du 20 au 23 mai à Goma. Ce sera la première fois que ce comité se réunira en dehors de Nairobi au Kenya, où se trouve son secrétariat. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Marie Robinson, sera présente à cette rencontre. Voilà donc pour les activités des composantes de la MONUSCO. Tout de suite, le point avec l'équipe pays tout d'abord. Le volet développement présenté par Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour Charles.
Alors, que peut-on retenir cette semaine sur les activités majeures dans le domaine du développement ici en RDC?
Alors, tout d'abord, une information de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, qui met en œuvre un projet pilote sur la filière manioc dans les provinces du Bas-Congo, Kinshasa et Bandundu, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, avec l'appui du Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI, de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements, ANAPI, et la facilitation de la coopération néerlandaise, SNV, pour les formations et le financement des micro entrepreneurs. Ce projet, qui a été lancé officiellement lundi dernier à Kinshasa par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, aidera à renforcer les capacités organisationnelles et techniques des communautés villageoises, des associations et groupements paysans et autres partenaires de la filière manioc, et permettra également d'intensifier et diversifier la production par la maîtrise et l'appropriation des itinéraires techniques à travers les champs, écoles, paysans. Ce projet vise aussi à créer des centres incubateurs de micro-entreprises rurales pour un changement social progressif des producteurs et transformateurs du manioc en potentiels entrepreneurs de la filière manioc. La FAO, qui soutient l'émergence des techniques de transformation pour conférer une valeur ajoutée aux produits agricoles, facilitera à travers ce projet non seulement l'accès au marché des produits, mais aussi la transformation, le conditionnement, le stockage, la promotion des sous-produits, l'application des mesures sanitaires et les synergies. En ce qui concerne le PNUD, aujourd'hui, il y a le lancement officiel du programme conjoint lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Ce vaste programme conjoint d'une durée de 5 ans et d'un montant de 18 millions de dollars canadiens se déroulera dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en Ituri, en Bahouélé, en Équateur, Bandundu et Kinshasa. Ce programme s'inscrit en phase avec la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles. Son objectif principal est de contribuer à réduire durablement la prévalence des violences sexuelles en RDC. Les partenaires de ce projet sont le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Justice et des Droits Humains, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNESCO, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la FAO. sur le terrain, ministères et divisions provinciales, ONG nationales et internationales, de même que les universités congolaises et les établissements scolaires seront les partenaires de mise en œuvre. Ce programme est particulier parce qu'il propose une stratégie holistique, c'est-à-dire qui englobe tous les aspects médicaux, psychologiques, judiciaires, familiaux, sociaux, politiques, législatifs, éducatifs et économiques pour aboutir à une meilleure coordination des activités et déboucher sur des résultats concrets et structurants pour les victimes, car tout type de violence et ou de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles est totalement inacceptable. Le PNUD encore, le projet appui aux institutions parlementaires de la composante appui aux institutions démocratiques organise deux activités importantes en synergie avec le projet d'appui Parlement de l'Union européenne. La première activité est un séminaire de formation en légistique à l'intention des membres de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif de la province du Nord-Kivu. Cet atelier verra la participation des députés et ministres provinciaux ainsi que de leurs collaborateurs et il abordera les questions de légistique matérielle et formelle, c'est-à-dire la façon dont on écrit les lois et les édits. La deuxième activité, toujours sur le même thème de la légistique, se déroulera à Matadi à l'intention des ministres provinciaux, conseillers des cabinets et bureaux d'études de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Le projet Reddition des comptes, quant à lui, organise un séminaire aussi cette semaine à Matadi qui vise à aider à actualiser les plans de développement stratégique de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, IGF. Et enfin, la composante AIDOR, appui aux institutions démocratiques, par ses deux projets reddition des comptes et participation citoyenne, organise du 13 au 15 mai 2014 un atelier sur l'analyse de la proposition de loi organique portant création d'une agence de lutte contre la corruption. Cet atelier a pour objectif de consulter et récolter les avis amendements des acteurs de la société civile sur cette proposition de loi qui sera bientôt débattu au Parlement et puis adopté. Merci. Les communiqués de presse vous attendent après la conférence de presse.
Merci Geneviève. Pas d'informations sur le volet humanitaire, mais notre collègue Sylvestre Toumba Moudigaye est dans la salle et pourra éventuellement répondre à des questions lors de la séance questions-réponses. Nous allons tout de suite passer donc au développement sur le front militaire avec le colonel Félix Prosper Basse. Colonel, bonjour.
Bonjour Charles et bonjour à tous. Avant de procéder à un rapide survol de la situation sécuritaire en RDC, nous allons ouvrir cette page par une note sombre suite au décès accidentel d'un casque bleu, à l'occurrence l'adjudant-chef Dick Johan du bataillon Malawit, qui est décédé ce matin suite à un accident qui s'est passé aux environs de l'aéroport de Mavivi. À cet effet, au nom du représentant spécial, M. Martin Kobler, ici présent, du général Carlos Santos Cruz, commandant la force de la MONUSCO, mais aussi de l'ensemble du personnel civil et militaire de la MONUSCO, nous exprimons nos condoléances les plus attristées, aussi bien au gouvernement du Malawi, aux forces armées du Malawi, mais aussi et surtout à la famille de l'illustre disparu. Que Dieu ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis, et sa contribution aux efforts de stabilisation de la RDC ne resteront pas vains, et l'ensemble de la mission lui exprime tous ses remerciements pour sa contribution parce qu'il avait déjà passé 11 mois au sein de la mission. Donc pour ce qui concerne la situation sécuritaire, nous commençons par l'ouest de la République démocratique du Congo où un calme relatif a été observé, mais la situation reste imprévisible durant la semaine écoulée. Toutefois, elle demeure volatile à la frontière avec la République centrafricaine à cause de la présence récente des éléments anti-balaka dans la région de Zongo. En province orientale, les efforts d'éradication des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts des Hauts et Bas-Ouélé se poursuivent normalement. En Ituri, au sud du territoire d'Irumu, face aux graves violations des droits de l'homme commises par les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI contre les populations civiles, Les troupes gouvernementales, soutenues par la force onusienne, poursuivent avec détermination leurs opérations visant à neutraliser ce groupe armé. Le 8 mai 2014, deux éléments Simba du groupe Mai Mai de Paul Sadala alias Morgan ont été tués au cours d'une attaque lancée contre les positions des FRDC situées dans la zone d'exploitation d'or de Mouchacha, 20 et 300 km au sud de Badegaido et à l'ouest de Bouya. Un militaire congolais a également péri dans ces combats. Ces affrontements ont provoqué le déplacement des populations vers les localités de Badegaido et de Nyanya. Au nord Kivu, un calme précaire a été observé pendant la période sous examen. Toutefois, le climat sécuritaire demeure fragile et imprévisible. L'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, mène ses opérations de bouclage et de ratissage dans le cadre de l'opération Sokola 1 contre les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF dans le territoire de Beni. Dans le cadre des activités liées à la stabilisation, les éléments du génie de la force de la MONUSCO ont en ce jour réhabilité 82 km de la route Mbao-Kamango, facilitant ainsi le retour de nombreux déplacés. Dans le Petit Nord, en territoire de Masisi, les 7, 8 et 9 mai 2014, sept insurgés de l'Alliance pour un Congo libre et souverain ont été tués par les troupes gouvernementales dans la région de Lukweti suite aux différentes attaques lancées contre leur position dans la région. Des rapports concordants font état de l'apparition de deux groupes armés Hutus au sud du territoire de Lubero, composés ou collaborant avec les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Il s'agit de la Force populaire pour la protection des Hutus, FPPH, formé près de Miriki, à 122 km au sud-ouest de Lubero, et composé de Maïmaï Nyatura et de FDLR sous le commandement d'un certain Gustave. L'autre groupe armé est dénommé Ingobo Kajiyugu. Basé à Luanga, à 15 km au sud de Luefu, il est composé d'éléments armés Hutus de différentes factions Nyatura et dirigé par le colonel Kasogo, un ancien du groupe armé du Front de défense des droits humains FDDH, actif dans la région de Mweso. Le 8 mai 2014, les FRDC ont appréhendé 8 rebelles FDLR FOCA, dont 2 capitaines, au cours d'opérations menées dans la région de Maeba, située à 70 et 150 km au sud-ouest de Butembo et au nord-ouest de Lubero. 7 armes individuelles et 2 radios ont également été récupérées. Le 12 mai, au cours d'une opération de ratissage au cours du camp Médine, les troupes FRDC ont récupéré dans un bunker souterrain plusieurs types d'armes et de munitions, notamment 57 armes AK-47, une mitrailleuse, 27 armes automatiques, 22 lance-roquettes et 6 caisses de munitions d'armes AK-47. Ces armes et munitions ont été entreposées en ces lieux par les rebelles de l'ADF qui ont occupé Médine avant sa conquête par les FRDC, soutenus par la force de la MONUSCO. Au chapitre des redditions, dans la province, nous avons enregistré 28 éléments en provenance de différents groupes armés, notamment 8 des forces démocratiques de libération du Rwanda et d'autres éléments d'autres groupes armés. La province du Sud Kivu, quant à elle, reste sous le contrôle des troupes onusiennes et congolaises. Au chapitre des redditions, les 8 et 10 mai, 2 combattants FDLR et 19 éléments Maïmaï Kifouafoua se sont respectivement rendus au poste opérationnel de la force de la MONUSCO, déployé à Lulimba et au village Chembusha avec 2 armes AK-47. Au Katanga, le climat sécuritaire dans plusieurs régions situées au nord de la province demeure volatile et imprévisible à cause de la présence des groupes armés, notamment les Maïmaï Bakata Katanga, mais aussi, depuis un certain temps, à cause de la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les conflits entre les Pygmées et les Bantous, également dans cette province, prennent des dimensions inquiétantes dans la province et affectent presque tout le district de Tanganyika. Le secteur de quant à lui est très calme. Je vous remercie de votre attention.
Merci, colonel. Et comme je l'annonçais en début de cette conférence de presse, nous avons comme invité aujourd'hui, une fois de plus, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC. Nous allons lui donner la parole. Je crois que, monsieur Martin Kobler, vous revenez de congé. Et depuis votre retour de congé, vous avez eu beaucoup de rencontres, et notamment hier, celle avec la CENI.
Voilà, merci Charles. Chères auditrices, auditeurs de Radio Cap et chers membres de la presse à Kinshasa et à Goma, laissez-moi tout d'abord exprimer aussi mes condoléances à l'occasion de la mort du soldat malavien. C'était un accident tragique et mes pensées sont aux familles, à la famille au Malawi qui ont perdu leur mari et leur père. C'est toujours, ce sont des moments très tristes pour les MONUSCO de perdre des collègues et des soldats. Voilà, vous avez raison, Charles. J'ai repris hier mes activités avec une visite à CENI parce que, je vous dis pourquoi, maintenant, la concentration de la MONUSCO, de la mission, aussi de moi personnellement, la priorité ici à Kinshasa, ce sont les élections. Et aussi, auparavant, nous sommes en contact, j'étais en contact avec les partis de l'opposition, de la majorité présidentielle. Et j'ai visité hier la CENI, mais pas seulement le président de la CENI, mais aussi l'ensemble des membres de la CENI là. Et j'ai visité aussi le bâtiment. Nous avons maintenant 15 collègues de la MONUSCO qui travaillent dans la CENI pour soutenir les activités de la CENI. Laissez-moi faire clair une chose. Nous respectons la souveraineté du Congo dans les élections. Mais à l'autre côté, nous avons un mandat. Ce mandat dit d'avoir, premièrement, l'assistance technique, et c'est la raison de la présence de nos collègues, de nos 15 collègues qui travaillent maintenant dans la CENI, dans le bâtiment, l'assistance technique. Deuxièmement, c'est la logistique. Vous vous rappelez, 2011, voilà, c'était pas un succès du point de vue de logistique, et il faut faire mieux qu'à 2011. Il faut planifier même avant les élections. Il faut, selon mon expérience, 6, 7, 8 mois pour organiser la logistique. C'est pourquoi c'est très important et ça doit être financé. La troisième tâche de la MONUSCO et des Nations Unies dans le pays ici, ce sont les bons offices. J'ai dit, on respecte la souveraineté. Alors, ce sont les décisions électorales qui doivent être prises par les autorités, par le CENI, mais aussi par le Parlement, par le Sénat. Mais nous avons un mandat de garder les principes électoraux, d'observer très intensivement le processus électoral. Et ces principes sont très clairs. C'est décrit dans notre résolution 2147 d'avoir les élections libres, justes, transparentes, pacifiques, inclusives, et respecter un calendrier électoral et respecter la Constitution. Voilà, ce sont les principes. Mais tout ce qui se passe entre les partis politiques, entre la majorité et l'opposition ici, ce sont les décisions qui sont prises dans la souveraineté du Congo. Nous coordonnons, nous faisons ici aussi à Kinshasa la coordination de la communauté internationale ici. C'est une chose qui est très importante parce que pas tout le processus de maintenant jusqu'à 2016 peut être financé par le gouvernement congolais. Il faut la contribution de la communauté internationale, mais la communauté internationale peut financer, peut développer les documents seulement si on a les décisions politiques. Il faut les décisions politiques tout d'abord sur les lois. Maintenant, les lois sur l'organisation des élections locales, provinciales et nationales, et la communauté internationale peut baser seulement leur contribution de financement sur les décisions politiques. Et c'est aussi alors un des objectifs des bons offices de rester en contact avec tout le monde afin d'assister. Pas d'interférer, mais d'assister si les partis l'aspirent, d'assister pour promouvoir ce processus, d'obtenir les décisions politiques. C'est notre priorité, encore une fois, maintenant, parce que c'est très important. Je sais que beaucoup de collègues, beaucoup de gens, ils attendent les élections maintenant, ils attendent un progrès aussi au Parlement, au Sénat, pour obtenir les décisions politiques ici. Après cette conférence de presse, deuxième point, je vais joindre la délégation russe à Goma. Je me déplace à Goma. C'est très important d'avoir des membres du Conseil de sécurité ici. Et nous allons, je vais passer demain, je vais faire le programme avec eux à Goma. On va aller ensemble dans plusieurs endroits avoir des pourparlers. Et je suis, troisièmement, c'est mon dernier point, très heureux que nous avons, Charles a mentionné, le comité d'appui technique au mécanisme régional de suivi à Goma. Je pense qu'on a trop de pourparlers, trop de réunions au dehors de la RDC qui s'occupent des problèmes de la RDC. Je crois que c'est très important d'avoir aussi des réunions là-dedans. Et je suis particulièrement heureux que nous avons maintenant...